Bonjour Gilles Yabi.
Bonjour.
La corruption, c'est une question très concernante, très concrète, qui touche les citoyens au quotidien, à tel point que les mots que vous employez pour résumer le sentiment des Africains face à ce fléau, c'est l'impuissance et la fatalité.
Il y a un sentiment d'impuissance parce que beaucoup de citoyens de la région témoignent d'une impuissance, un sentiment que la corruption généralisée est totalement installée et qu'on ne peut rien faire contre elle, qu'il y aurait quelque chose de spécifique à l'Afrique, mais en même temps, lorsqu'on examine les analyses qui ne concernent pas seulement le continent africain, on comprend très vite qu'il s'agit d'un phénomène qui est mondial et que pour apporter des réponses, il faut également l'envisager comme tel, c'est-à-dire décomposer le problème, l'examiner sous ses différentes dimensions et proposer des approches qui ont d'ailleurs fonctionné ailleurs.
Souvent, la difficulté, comme vous le relevez dans votre note, c'est de pouvoir dénoncer les faits de corruption. Quand on en est victime ou témoin, on se dit à quoi bon, ça ne mènera nulle part.
Oui, c'est vrai, c'est l'un des problèmes. Lorsqu'il y a ce sentiment qui est installé de corruption généralisée et finalement inattaquable, les citoyens eux-mêmes ne font plus le travail qui consiste à dénoncer la corruption dont ils sont victimes, mais dont ils sont aussi en partie responsables. Il y a des transactions qui permettent à plusieurs catégories de personnes finalement de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Il faut vraiment construire des coalitions pour pouvoir montrer que finalement la société paye un prix extrêmement lourd à la corruption, même si quelques catégories d'acteurs profitent énormément de cette corruption généralisée.
Alors pourtant, il existe souvent des institutions nationales de lutte contre la corruption, mais le problème, c'est leur inefficacité. Alors est-ce qu'elles manquent de moyens humains, financiers, d'un cadre légal fort, ou est-ce que c'est juste un problème de volonté politique selon vous?
Alors, ce que nous disons, c'est que il est tout à fait possible d'avoir des institutions nationales de lutte contre la corruption dans les pays africains qui soient efficaces, mais pour cela, il faut s'inspirer de ce qui a fonctionné ailleurs, il faut les doter de moyens importants, à la fois pour faire de la prévention et pour faire de l'identification des personnes directement impliquées dans des faits graves de corruption et de pouvoir effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas d'impunité. Ça consiste à dire que la corruption est d'abord le résultat de défaillances institutionnelles, et c'est pour cela que les institutions de lutte contre la corruption doivent aussi faire des examens de vulnérabilité, c'est-à-dire savoir dans un pays quels sont les endroits, quels sont les services dans des ministères spécifiques qui sont les plus exposés à la corruption. Et la meilleure réponse, c'est une réponse en termes de réforme des modes d'organisation interne, de prise de décision, diminuer le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires pour qu'une personne ne puisse pas décider d'un marché, par exemple, et donc diminuer totalement les possibilités de corruption. Donc s'attaquer au système vraiment par l'aspect quasiment technique et regarder vraiment quelles sont les portes ouvertes à la corruption qui existent dans toutes les institutions publiques et les fermer.
Et justement, ces postes les plus exposés, vous proposez que dans la fonction publique, les recrutements et les promotions soient davantage liés à l'intégrité et pas seulement aux compétences.
Il faut une politique de ressources humaines au niveau en particulier des administrations publiques, alors qu'il faudrait qu'il y ait une partie des rémunérations qui soit liée d'une part à la compétence et on dirait d'autre part à une sorte de récompense de l'intégrité. Et nous disons par exemple qu'on peut imaginer des primes d'intégrité qui ne seraient pas immédiatement versées, mais qui seraient liées à un comportement qui aurait été, honnête de la part d'un fonctionnaire sur une durée de travail assez longue, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de cette prime, disons, en fin de carrière.
Vous avez employé un terme très important tout à l'heure, celui de la prévention. Pour vous, ça commence dès l'école primaire avec des cours d'éducation civique.
Beaucoup ont insisté sur la nécessité d'apprendre aux enfants le plus bas âge, le respect du bien public, par exemple, d'apprendre aux enfants ce qui relève d'un comportement éthique acceptable. Et beaucoup ont relevé également que les cours d'éducation civique et morale existaient dans quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, et puis ils ont progressivement disparu. Pour réintroduire ces cours et adapter les contenus à la progression des enfants.
Un dernier point, c'est la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte.
Nous insistons sur la nécessité de former des journalistes d'investigation dans la région, mais également de créer des systèmes légaux de protection de ces journalistes et des lanceurs d'alerte qui peuvent leur donner des informations, parce qu'évidemment, c'est un travail extrêmement risqué. Lorsqu'on touche à l'argent, là, on se met vraiment en danger. Et donc, il est vraiment important que les journalistes ne soient pas simplement encouragés à faire ce travail, mais qu'ils soient formés pour et qu'il y ait un dispositif qui les protège, peut-être au niveau national, mais on peut envisager également qu'une organisation régionale comme la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest puisse prendre l'initiative de proposer un mécanisme pour protéger davantage les journalistes qui permettent réellement de faire un travail qui favorise une meilleure gouvernance au service de l'intérêt général.
Merci Gilles Yabi.